pute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Di Fiore. Et la prise de son est assurée ce soir par Élise Le, la réalisation signée Daniel Finot. Autour de moi, ce soir, Sophie Rosemont, Mathieu Conquet, Joseph Gosne. Sur nos platines, No One Ever Really Dies, The Nerd, Levity, The Zombie Zombie et Ouf, l'anthologie souterraine 2015-2017. Boris Pino est en place. Devant son écran, attendant des commentaires sur les disques dont nous allons parler ce soir, n'hésitez pas. Puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le spectacle Gala de Jérôme Bell. Place à gagner pour samedi 23 décembre à 18h30 à la MC 93 de Bobigny. Si vous n'en pouvez plus de Pharrell Williams, vous pouvez essayer Nerd, qui revient 7 ans après son 4e album Nothing. Le trio de musiciens est toujours à fond, invite du lourd, Rihanna, Kendrick Lamar, M.I.A, Future, André 3000 et même Ed Sheeran. C'est pas pour Miss France cette fois, mais si vous l'ignorez, bon, c'est bien Pharrell Williams, encore lui, qui mène Nerd. Et ce nouveau disque, No One Ever Really Dies, on écoute un des morceaux de l'album qui s'intitule Don't Do It.
Life till we're down on our luck. It makes no difference in this life. paid off. Hitler, grandkids laid off. Niggas, same rule, same truck. Different decade, same law. Keep focused. You wanna get caught with your eyes open. You wanna stay clear of the prognosis. Pride provoke them, watch the motion. Watch them close enough to let the host up in corrosion. Roller coaster ride, that bitch. Sooner later, sides gon' switch. You know Johnny got that itch. How many more rush? Gotta chill for my gun. Play by the play, bash. Stop, wait, break.
Don't do it. Est-ce que c'est ce que vous avez envie de dire à Pharrell Williams? Non, c'est un peu facile. Sophie Rosemont, ce nouvel album de Nerd.
Alors, ce nouvel album de Nerd, il faut le digérer. Il faut le recevoir, l'accepter, l'accepter. Un peu le comprendre
l'accepter.
Et le digérer.
L'accepter. Vous dites qu'il faut digérer parce que c'est une langue
c'est
qu'on
une
voit
langue
sur la couverture.
C'est une langue que l'on voit d'ailleurs dépasser de la bouche de cette jeune femme, là, cette pochette. Une pochette pas très bien réussie d'ailleurs. Mais... Alors finalement, l'ouverture et la conclusion de cet album résument bien l'esprit. C'est-à-dire qu'il débute en citant un extrait de discours de Gloria Steinem, qui est donc une grande figure féministe américaine, qui dit « La vérité va vous libérer, mais avant, elle va vraiment vous mettre en rage, très en colère. » Et il termine en disant « je le dis en anglais, désolé, I'm too fucking hyped. Je suis vraiment, vraiment trop branchée. » Et voilà, entre le côté très engagé, dont on va parler, et ce côté finalement très, très à la mode, très tendance, très entertainment, il a pris ces deux aspects, il les a mélangés, et il en a fait un melting pot, vraiment un melting pot, où il puise dans tout, c'est-à-dire il est allé chercher chez Suicide, chez Divo, des groupes auxquels on n'aurait pas pensé à ouais. De prime abord quand on ouais. Va faire à Williams.
On n'est pas obligé d'y penser en l'écoutant.
Kraftwerk. Ah, sur Divo, si on peut retrouver quand même des moments de Divo.
Ouais.
Il s'autocite, hein, c'est-à-dire que dans la conclusion...
C'est un minimum ça quand on est hyped.
Lifting You, on entend des morceaux de Drop It Like It's Hot, un duo qu'il avait fait avec Snoop Doggy Dogg il y a 15 ans. Donc ici beaucoup, il s'autocite et il arrive à faire une œuvre singulière, peut-être aussi parce qu'elle est un petit peu agressive. Il prend à contre-pied d'ailleurs l'agressivité de la musique ambiante en prenant dans de la techno, dans de la trap, mais aussi dans du funk de jadis, dans le hardcore de la côte Est et joue sur plusieurs contrastes. D'abord les contrastes rythmiques, c'est-à-dire qu'il y a rares sont les chansons où il n'y a pas des changements très très brutaux de tempo. Donc là c'est vrai que ça au début ça étourdit, ça agresse assez, et les contrastes entre le thème, vraiment le thème, et la musique, ce qui est le cas dans le morceau qu'on vient d'écouter, où il y a des arrangements très ensoleillés, des synthés ultra funky, et ces paroles qui sont qui parlent des violences policières, parce que là, Pharrell Williams a décidé de sortir l'artillerie lourde sur le Black Lives Matter, il a raison d'ailleurs, et oui, entre ces paroles très très dures, surtout don't do it, ne le faites pas, ne tirez pas sur moi, non, je n'ai pas d'armes, ne m'achevez pas en pleine rue, et avec ce petit côté synthé très sympa, on danse sur le dance floor. Donc voilà, mi-chemin entre l'engagement, l'entertainment, le ludique, la violence, des changements de tempo, beaucoup 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 d'invités, et ça c'est peut-être le reproche que je fais à cet album, même si voilà, les featurings c'est quelque chose qui se fait beaucoup, notamment sur les albums de musique urbaine. Bon là déjà il s'agit de pop, de melting pop, mais j'aurais voulu que face à des morceaux qui ont autant de multiples facettes, Pharrell soit seul, un peu plus seul. Et d'ailleurs les morceaux que je trouve les plus digestes sont ceux où il est seul, où il reprend vraiment la patte qu'a fait Nerd et Neptunes d'ailleurs, avec Chad Hugo et Shaylee, et qui sont pour moi peut-être les plus sereins. Les plus apaisés, donc pas forcément les plus faciles.
On l'arrête plus, hein. Vous avez remarqué, Sophie Rosemont,
oui,
sur Nerd.
Bref, en tout cas, je non, je c'est un album, voilà, qui où on a en fait finalement je suis comme l'album, c'est-à-dire que je débite.
Mais je peux revenir vers vous dans un instant après que vos camarades se soient exprimés, si vous voulez bien.
Mes camarades digèrent et réagissent.
Parce que vous dites Pharrell, Nerd, c'est pas censé être un trio, Joseph Gosse?
Oui, Nerd, c'est un trio.
Il l'appelle Pharrell, on notera au passage.
Oui,
hein.
Oui. C'était même au départ un duo, parce que c'était un duo qui s'appelait Neptune, c'était un duo de producteurs.
Tellement génial.
C'était Pharrell et Chad Hugo, C'était effectivement un très grand duo de producteurs. C'était à la fin des années 90, début des années 2000. C'était vraiment, il y avait les productions de Neptunes et les productions de Timbaland, et les deux se regardaient, avançaient, etc. Et on se souvient notamment du premier album de Kelis, une chanteuse peut-être un peu oubliée maintenant, mais c'était vraiment, c'était très très beau, et surtout il y avait une patte qui allait vraiment vers l'avant, qui puisait évidemment dans ce qui avait été fait avant. Kelis venait elle-même du Wu-Tang Clan, enfin avait été proche de ces gens-là, etc. Donc il y avait toute une avancée comme ça. Et ensuite avec Nerd, quand c'est devenu Nerd, où ils ont rajouté un troisième chanteur, ils ont rajouté. Il y a une tentative pour aller vers quelque chose de qui sortait de ce statut de producteur, pour aller vers le groupe. D'ailleurs, le premier album qu'ils avaient fait, il y avait une version électronique avec des machines qu'ils avaient renié tout de suite, et ils avaient sorti une version beaucoup plus acoustique. Donc il y a chez eux toujours cette idée de groupe un peu funky, de groupe qui joue, de groupe de scène, etc. C'est pas ça qui me plaisait chez eux. C'était plutôt au contraire l'énergie et le côté toujours un peu en avance, un peu futuriste, cette façon aussi de jouer avec le R&B, et puis aussi toujours la prestance quand même de Pharrell. Je les ai vus sur scène quelques fois, et il y a toujours un côté comme ça très élégant, très fin, et il s'est emporté. Et c'est quelque chose qu'on a vu plus tard quand il a chanté avec les Daft Punk. Et là, il s'est vraiment révélé comme un grand chanteur. Ouais. Je pense que c'est vraiment un très très bon chanteur. Et pour arriver justement à cet album, je trouve que tout le mystère et le charme ont vraiment disparu. C'est-à-dire que là où on cherche Pharrell le chanteur, finalement on le trouve pas. Il est un peu enfoui sous d'autres. Il est enfoui sous les effectivement ils ont un carnet d'adresses qui est incroyable puisqu'ils ont produit à peu près tout le monde et tout le monde etc. Mais finalement bon voilà, tous ces featurings sont là. C'est pas mal, mais bon, dans le fond, à quoi ça sert? Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec le disque. C'est-à-dire, j'ai vraiment du mal à l'écouter, à le digérer, à rentrer dedans. J'ai l'impression que c'est pour pousser un peu. J'ai l'impression que c'est plus vraiment de la musique, quoi. C'est un truc de fête. C'est un truc de comme ça, un peu percutant, un peu percussif. La seule chose qui me vient à l'idée, j'avais l'impression que c'était qu'il a passé plus de temps à faire des baskets qu'à vraiment faire de la musique, et qu'on est dans cette énergie là, dans ce truc de il faut à tout prix en être, il faut à tout prix balancer des sons, être très fort, très puissant, très présent. Et le problème, c'est qu'à force d'être comme ça dans cette attitude là, je vois pas trop pourquoi j'écouterais ça, pourquoi je vois pas trop où ça avance en fait. Il y a effectivement au début il y a un morceau qui me plaisait bien, qui est Deep Down Body Third, qui est un morceau sans invité, qui est le deuxième, qui est plutôt joli, où on se dit tiens, il y a quelque chose qui va se passer. Mais très vite, et pour rebondir sur ce que dit Sophie tout à l'heure, c'est-à-dire les morceaux changent très vite de tempo, ça casse, mais on n'a pas l'impression que c'est fait pour tenter des choses, mais plus pour se dire oui, il faut aller vite. Et moi, ça m'a laissé assez pantois en fait. Ça m'intéresse beaucoup moins. Et je trouve que, juste pour terminer, que le fait, il y a quelque chose d'assez symbolique, c'est-à-dire que on s'est toujours demandé ce que voulait dire ce mot nerd, et là, c'est affiché comme ça en plein. Et c'est ce no one ever really dies, personne ne meurt jamais vraiment. Et moi, tout à l'heure, je me disais, mais dommage que ce groupe ne soit pas arrêté un moment. Voilà, pour que voilà.
Bon, Mathieu Conquet à présent sur ce disque de Nerd.
Alors visiblement, Pharrell Williams parlait à la conférence de presse où j'ai pas pu assister, mais vous étiez, Sophie, je crois, où il s'agissait d'écouter le disque à très fort volume et où il donnait un peu ses intentions. Il parlait de sa musique ou de ses morceaux comme des sortes de petits Transformers. Alors je sais pas si, comme les films Transformers, c'est l'âge d'extinction ou le dernier chevalier, hein, puisque c'était ça les derniers volumes de ces adaptations de Transformers. Oui, il y a un côté fin de cycle dans ce disque-là. Mais ça s'écoute quand même très agréablement. Je trouve que le morceau Lemon qui ouvre est assez fort. La présence de Rihanna, qu'il fait venir plutôt comme une rappeuse que comme une chanteuse, elle est assez bienvenue. Vous parliez des changements de tempo. Il y a l'artisan, en tout cas de ce morceau, du morceau que vous citiez, Deep Down Body Thirst, l'artisan de ces changements de rythme, c'est le bassiste Thundercat, qui est un bassiste très intéressant et qui a une place prépondérante dans ce morceau-là. C'est pas un disque où vous allez voir, si vous regardez dans les notes de livret, moi la présence de Jay Haley, le troisième larron, je ne le vois nulle part. Donc j'ai l'impression que Nerd est devenu plutôt un duo entre Pharrell Williams et Chad Hugo que un trio, même si c'est toujours Pharrell Williams qui mène la barque. Là voilà, c'est un album où vous allez voir toujours au générique beaucoup plus d'ingé son et de noms de studio que de noms de musiciens. Mais quand il y en a quelques-uns, ils sont vraiment présents, on les entend vraiment très bien. C'est le cas pour Thundercat dans ce morceau-là. Il y a un autre morceau qui sauve un peu le disque pour moi, c'est Rolling Them Seven, le morceau qu'il fait avec André 3000, un autre producteur qui a été important aussi et qu'on avait pu entendre dans différents projets. Moi vraiment j'aime bien la facture, le côté effectivement qui change de rythme tout le temps, ça traduit peut-être une panique de pas être sûr de son propos. Il n'empêche que le morceau que vous avez choisi comme extrait, ça me paraissait être le bon. Quand il dit don't do it, c'est pas ne tirez pas dessus, c'est ne sortez pas de votre voiture. C'est ça ce qu'il dit, puisqu'il parle vraiment de la mort de Keith Scott, qui est un jeune homme qui a été abattu dans sa voiture. Sa femme a filmé les événements et ça a été très vu aux États-Unis et très débattu sur cette question des violences policières. Et voilà, effectivement, il y a un côté très euphorique dans le morceau et en même temps, ça vous dit vraiment, ne faites pas confiance à la police, ne sortez pas de la voiture, ne levez pas les mains en l'air. En plus, ça joue assez bien sur cette ambiguïté, sur le fait, au début, il parle de, on lève les mains en l'air parce qu'on est content, parce qu'on est heureux. Et en fait, il explique, même si vous levez les mains en l'air, vous vous ferez tirer dessus. Donc, il y a un geste assez réussi, en tout cas dans le titre qu'on a entendu là. C'est vrai que le disque s'essouffle un petit peu à partir dans beaucoup de directions. Ensuite, c'est ce qui a fait vraiment, pour moi, la marque des Neptunes aussi. C'était les producteurs qui étaient capables de travailler pour Snoop, donc du côté du hip-hop, pour Britney Spears, produire des choses très sucrées, très pop, très grand public, et que ce soit en même temps hyper avant-garde, c'était extrêmement réussi. Et puis être capable de produire aussi des choses avec les Daft Punk, donc du côté de la musique électronique. Donc pour moi, c'est des gens qui ont quand même fait le son des années 2000, et c'est vrai que du coup les attentes, ça faisait 7 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'album, l'attente était un peu élevée et on est forcément déçu du résultat, mais on peut pas dire qu'on ait affaire à des mauvais faiseurs. Maintenant c'est vrai qu'on voit la patte, on voit la technique, mais on voit pas beaucoup le message.
Ouais, enfin le message, vous l'avez dit très bien, les uns et les autres, c'est quand même des textes qu'il faut quand même prendre la peine d'écouter ou de se faire traduire au besoin. Moi je défends les gens qui expérimentent, parce que ça expérimente quand même beaucoup, y compris dans la façon dont les titres s'enchaînent mal. Non mais il y a un côté un peu raté que moi j'aime bien en fait dans cet album, c'est un côté déséquilibré.
Oui mais qui va pas assez loin, vous voyez, même quand il fait un morceau d'œuvre, va pas franchement...
Ouais, mais moi j'ai plutôt une tendresse un peu coupable donc à vous écouter envers ce disque qui est tellement qui part en effet tellement dans tous les sens que je trouve assez sympathique au fond parce que alors enfin c'est tout sauf formaté, c'est tout sauf le disque qu'on pouvait attendre qui succéderait au grand succès mondial de Pharrell Williams. Enfin, vous voyez ce que je veux dire,
c'est pas évident.
Mais ouais. Oui, mais bah, on se demande même s'il est encore s'il a encore cette écriture-là en lui, en fait.
Laquelle
L'écriture du tube.
C'est-à-dire l'écriture de Happy. Attendez le prochain, sous son nom.
Oui, on sait jamais, mais il y a quand même une question comme ça, là. C'est-à-dire, après Happy, il y a eu un album que moi, j'aimais plutôt bien, Girls. Donc, il y avait un beau morceau avec Daft Punk, etc. Mais... ça partait quand même un peu dans tous les sens.
Vous le pensez perdu?
Ça a essayé. Non, je le pense pas perdu. Je pense qu'à un moment, et à un moment qui a duré assez longtemps, il a capté quelque chose.
Presque 20 ans quand même.
Oui, il a capté quelque chose au début des années 2000, quelque chose de qui venait avant lui en fait.
Ouais.
Tout ce que Mathieu citait, des choses qu'il a réussi à emmagasiner, notamment des choses qui venaient d'ailleurs, de l'Angleterre, etc., d'Europe. Il en a fait quelque chose. Timbaland a fait aussi un peu pareil. D'ailleurs, ils venaient tous les deux, je crois, du même lycée. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui s'est cristallisé, qu'il a développé, qui a correspondu à une époque, et que aujourd'hui, on sent qu'il est à côté. La pochette, les photos qu'il y a dans la pochette sont assez symboliques, je trouve. Il montre une jeunesse, mais il n'est plus cette jeunesse. Ce n'est plus lui. Ce n'est plus lui. Et c'est ça aussi qu'on a envie de le voir pousser vers autre chose.
Dernier mot, Sophie Rosemont.
Joseph, tout à l'heure, disait il s'est emporté sur scène.
Moi, je dirais, il s'est emporté et, c'est-à-dire que sur cet album, je crois que Pharrell Williams a oublié qu'il avait 44 ans, a suivi son aspect vampire.
Non, mais c'est très jeune.
Il n'en a plus 12, voilà.
Ouais,
et, et même si sur certains titres, d'ailleurs, sur Rolling M, ou même sur Kite, sur Voilà, il y a quelque chose de très enfantin et de très vital qui est assez séduisant, qui ressort, un petit peu de calme, hein, redescendre un peu ne lui fera pas de mal, mais je pense qu'on n'en a pas fini avec lui.
Mathieu Conquet, très rapidement.
Micro-question, vient de sortir aussi un album. Non, mais vient de sortir un album d'Eminem, autre artiste important dans les années
2000.
Autre artiste important dans les années 2000. Et tous les deux ne semblent pas apporter de réponse. Alors, j'attends pas des musiciens qui apportent des réponses, mais enfin bon. Voilà, Eminem, Donald Trump a été élu. L'Amérique change singulièrement vite. La France aussi. Enfin, beaucoup de choses changent. Et on a l'impression que ce changement se fait sans eux.
Eminem, je pense, c'est plus compliqué que ça. Mais enfin, on aura
beaucoup
une dispute. On
très, très ringard. Ouais. Et Pharrell est quand même beaucoup plus engagé que
je suis pas sûr que ce soit si ringard que ça. Bon, on va se disputer dans deux semaines.
Je vous écouterai volontiers. Bon,
pour l'instant, nous parlions de No One Ever Really Dies de Nerd, sorti chez Columbia, et puis à suivre dans la dispute Zombie Zombie et La Souterraine.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Encore un duo devenu trio, mais ça c'est, pour c'est vrai. Plutôt vrai, avec Dr Schoenberg qui a rejoint Étienne Jomé et Cosmic Neyman pour Zombie Zombie, et ce troisième album qui s'intitule, oui c'est le troisième ou le quatrième, j'ai oublié, tiens, qui s'intitule Levity, quatrième, hein, me semblait-il aussi. Pochette signée Philippe Druyer, qui donne un peu le ton pour un disque comme un voyage électro barré, on va dire, avec des rythmiques, on va l'entendre, venues d'un peu partout du monde. On va en parler après avoir écouté le morceau « Elles existent ». We'll be right back. Voilà pour ce morceau de Zombie Zombie dont on a entendu que l'intro, hein, parce que finalement, non, je plaisante. Joseph Gosne.
Oui.
Zombie Zombie. Quatrième, cinquième, 18e album, peu importe, on parle de celui-ci qui s'appelle Livity.
Livity.
Déjà.
Zombie Zombie, ça fait une, faut pour les ressusciter un tout petit peu, ça fait une dizaine d'années qu'ils existent. Ils ont commencé comme un duo qui faisait penser à quelques autres duos, notamment les Silver Apples, ce groupe, ce duo new-yorkais qui déjà avait une batterie et des synthés. Et aussi, il faisait beaucoup penser à la musique de John Carpenter, la musique que Carpenter faisait un peu seul avec ses synthés, ses boîtes à rythme. Donc il y avait cette déclinaison-là qui était intéressante, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le groupe a eu pas mal de succès. Parce qu'ils ont une formule assez efficace, notamment sur scène, où ils ont longtemps été deux avec cette batterie, tous les synthés d'Étienne Jomet. Étienne Jomet a même à un moment fait un album solo, très influencé par la techno, etc. Donc il a travaillé
avec Carl Craig d'ailleurs.
L'album a été produit par Carl Craig. Il y a comme ça plusieurs filiations qui ont rendu ce groupe plutôt intéressant à regarder et à écouter. Pour arriver à Livity, moi j'aimais beaucoup le précédent.
C'est au futur. Début de nuance.
Que je trouvais vraiment peut-être leur plus beau disque avec des morceaux très longs qui avaient été faits pour un spectacle. Il y avait quelque chose comme ça qui devait aller avec un spectacle de cirque. J'ai pas vu le spectacle, mais j'ai adoré le disque. Livity est un peu une sorte de contre-coup à Slow Future. C'est des morceaux qui sont plutôt courts, entre guillemets, hein. Ils font dans les 4, 5, 6 minutes. Mais pour Zombie Zombie,
entre 6 et 9.
Oui, si vous écoutez le plus court qui fait 6 minutes 02.
Voilà, entre 6 et 9, c'est quand même plutôt court par rapport au précédent.
Par rapport à 23,
Et il y a surtout, en l'écoutant, une forme un peu d'urgence, puisque le disque a été enregistré plus ou moins dans des conditions live, au studio de Red Bull, je crois, à Paris.
Plus que moins, je crois, d'après ce qu'ils disent.
Et je trouve que le disque file très vite. Il fonce pas mal et moi du coup parfois il me perd un peu, c'est pas l'album que je préfère de Zombie Zombie. Je le trouve parfois un tout petit peu progressif entre guillemets. Il y a quelques allusions à cette musique là qu'on retrouve d'ailleurs explicitement dans la pochette, hein, puisque la pochette signée Philippe de Ruyer, dessinateur de BD qui a pas mal œuvré dans cette je crois qu'il y a quelques pochettes de Drouillet. En tout cas son esthétique a été pas mal reprise par les groupes de rock prog français. Je m'étouffe en disant ça.
Ne vous faites pas du mal, Joseph.
J'essaye. En tout cas, j'ai beaucoup de sympathie pour ce groupe que j'adore vraiment voir sur scène à chaque fois que je les ai vus, et notamment là avec leur nouvelle formule où il y a un percussionniste en plus, un peu d'électronique en plus aussi. Je trouve que ça part dans quelque chose qui ressemble à la trance, qui vous perd très vite, c'est très hypnotique. Je trouve que c'est un des très bons groupes à voir sur scène en France en ce moment. Par ailleurs, ils ont d'autres projets. Cosmic Neyman fait des choses assez intéressantes. Étienne Jomet a un groupe d'hommage au compositeur minimaliste Lamont Young. Voilà, il y a beaucoup de choses. Ils sont très très actifs. Je trouve que il y a un côté un peu rétro évidemment dans la musique, puisque les synthés sont rétro. La formule évoque évidemment les grandes années 70 de la musique planante. Quand elle est à son meilleur. Et j'ai comme l'impression que c'est un groupe qui va bien avec notre époque, où il y a à la fois ce revival de groupes un peu inspirés par les années 70, les années, le crowd rock, les choses un peu planantes, et en même temps un vrai revival très intéressant de la chanson française. Et on a l'impression que de revivre un peu les années 70 quelque part, mais dans des conditions beaucoup plus do it yourself entre guillemets. Et je trouvais ça intéressant. Je trouve que Zombie Zombie va bien avec notre période.
Pour l'instant, Sophie Rosemont et Mathieu Conquet se racontent des blagues. On va les séparer la prochaine fois, hein, Joseph, parce que de parler en face d'eux, vraiment, c'est
on parlait
vraiment
de la pochette,
chapeau. Hein. Qu'est-ce que vous disiez sur la pochette, Mathieu Conquet?
On se disait bof bof. Enfin, j'aime beaucoup Philippe Truyer, hein, qui a été quelqu'un de très important pour Métal Hurlant. Les fans de BD et de science-fiction savent son importance et ça correspond tout à fait à l'univers de Zombie Zombie. Mais voilà, il nous a habitués jusqu'ici à des pochettes plus colorées qui, je trouve, correspondaient plus à leur psychédélisme. Et là, il y a quelque chose d'un peu froid, un peu glacé, que voilà, qui nous plaît.
Ça nous plaît pas du tout.
Et ça va pas avec le disque, alors, selon vous, Mathieu?
Non, mais je voudrais pas prendre la parole à
non,
Sophie.
Non, mais c'est à vous maintenant.
Bon, alors, moi, je trouve. Si, si. Non, ça va pas avec l'album que moi j'ai plutôt aimé. Voilà, je trouve qu'il y a, quelque chose. J'ai rencontré un jour un DJ, Ricardo Villalobos, qui met sa vie en péril depuis des années en faisant des mix jusqu'à épuisement. Et il me disait, moi, mon vœu, mon travail, ma vocation, c'est de dilater le temps, c'est que vous oubliez le temps et que vous soyez perdu. Et je trouve que ce disque. Alors, déjà, c'était une belle définition de la musique, je trouve, de nous faire oublier le temps. Et par ailleurs, je trouve que ce disque y arrive assez bien. Alors, il n'y a que 6 morceaux, plus un petit morceau secret qui est caché derrière. Mais au total, ça fait un peu moins d'une heure. Et tout ça nous emporte, nous transporte. Alors, effectivement, vous avez parlé de trance, Joseph. C'est vraiment ça qui anime Cosmic Neyman et Étienne Jomet. Il y a quelque chose d'à la fois très sophistiqué et très, très brut, très, très simple dans l'alliance. Moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'ils relèvent. Je trouve que c'est un groupe qui relève vraiment. Et je pense que c'est ce qui fait leur succès chez nous et ailleurs en Europe, c'est qu'il relève vraiment de deux traditions françaises, à la fois quelque chose d'une sorte de ludique savante, c'est-à-dire que, d'ailleurs en plus pour ceux qui connaissent Étienne Jomet, il a de grosses lunettes de savant, il a un côté un peu sorcier fou, on l'imagine très bien avec une blouse blanche dans son studio en train de tourner les boutons de... Et en même temps, c'est quelqu'un de très joyeux, très drôle, très enjoué. Et on retrouve quelque chose des avant-gardes de la musique électronique française, c'est-à-dire des gens qui étaient des bricoleurs, très savants, mais qui étaient très joyeux, très, très ludiques. Il y a quelque chose d'enfantin, d'assez plaisant. C'est pas désinvolte, c'est jamais ironique. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me plaît assez dans ce disque-là. Et puis, il y a quelque chose qu'ils arrivent à rappeler aussi. On pourrait parler aussi de Kraftwerk. C'est de rappeler que les machines sont chaudes, qu'elles peuvent être très chaleureuses. Et c'est quelque chose qu'on entend assez bien dans ce disque-là, qui est comme par hasard, toujours édité chez Versatile, le label de iCube. On est vraiment entre une musique très krautrock, donc très rock, très répétitive, et en même temps une techno minimale, très, très simple.
Sophie Rosemont, votre sentiment sur ce disque de Zombie.
Je suis à l'avis de Mathieu. Là-dessus, c'est vrai qu'il y a un côté très chaleureux qui est étonnant vu la teneur électronique de l'album, mais qui est dû sans doute au fait que ça a été enregistré en effet live en très peu de jours. Rien n'a été séquencé par ordinateur. Tous les câbles ont été utilisés. La console années 80 a chauffé 24 heures sur 24.
Vérifié par huissier ou comment ça se passe en fait ?
Vérifié auprès de l'ingénieur du son.
D'accord.
Et je vérifie toujours mes sources.
Tous les câbles.
Tous les câbles.
Tous les câbles.
Tous les câbles, tous les micros et tous les périphériques, m'a-t-on dit.
Bon.
Et ce qui est intéressant surtout dans cette musique, c'est que voilà, il y a le côté ressenti uniquement, on reçoit et on ne pense à pas grand-chose d'autre que de voyager. D'ailleurs, oui, c'est une invitation au voyage. Bon, on va pas tomber dans ce genre de cliché, mais en tout cas, oui, la musique est interstellaire et elle parle plutôt de ces voyages dont on revient pas, donc pas forcément les voyages dans l'espace que suggère la couverture et la pochette qui, hormis son aspect esthétique, il m'a pas forcément plus parce que le noir et blanc ne me semble pas convenir. C'est aussi parce que ce voyage n'est pas seulement spatial, il est aussi dans la jungle. Ce disque parle aussi de la fascination de l'homme pour la jungle et ça aurait été une bande sonore idéale pour le dernier film de James Gray, la cité perdue de Z, je crois.
The City of Z.
Voilà.
Des grands navets des derniers mois.
Sur très belles images pourtant sur l'histoire de cet explorateur là, Percy Fawcett qui n'est jamais revenu de la jungle. Et en
dans
fait, on peut mettre, et en vrai, au final, et on peut mettre en parallèle l'histoire de ces hommes qui partent pour la Lune, qui partent pour la jungle et qui ne reviennent pas, et ceux qui pourraient se laisser submerger par les instruments, ce qui pourrait être le cas de Cosmic Neyman, de Jomet, de Dr. Schoenberg, dont l'apport est très important, parce que par ses percussions, il apporte vraiment quelque chose de très, très jungle, et il y a des bruits de jungle du Laos qui ont été importés. Et donc il y a toute cette réflexion là qui me semble intéressante et quand on parlait tout à l'heure des musiciens un peu savants comme l'évoquait Mathieu, moi j'ai beaucoup pensé à Jean-Jacques Perret, série de disques autour du Moog, Moog Sensation, Moog Indigo. Là on est vraiment dans cette continuité là avec beaucoup de Sun Ra, beaucoup de Tangerine Dream et j'ai aussi pensé à James James Chance, qui avait initié ce courant no wave assez
non,
rigolo.
Mais alors là, si on... mais non, non, là je vais pas pouvoir vous laisser finir cette phrase.
Sans
non,
l'aspect punk, sans l'aspect punk,
non, mais et purement.
C'est le saxophone de Jamais qui vous fait penser à ça.
Exactement,
ouais.
Entre autres.
Mais,
entre autres.
Non, mais je veux bien qu'il soit sympathique et tout ce que vous voulez, le mec le plus charmant et drôle et qui utilise tous les câbles. Je peux vous dire ce que ça m'a fait.
S'inspirer. Non, mais on peut
zombie.
Mais parce que vous n'avez pas été sensible à Heavy Meditation. Je pense que c'est ça.
Non, mais moi la transe, dans toutes ses acceptions, c'est vraiment quelque chose à quoi j'adhère à 2000% depuis très très longtemps. Et là, j'ai juste entendu un disque qui se déroulait, des morceaux peut-être enregistrés avec tous les câbles, mais qui ne produisent pas l'effet qu'ils doivent certainement produire en concert. Ce morceau-là, qui dure 40 minutes en concert, je pense que je peux effectivement rentrer dans la transe. Là, je vois une succession de morceaux, j'entends des intentions, j'entends pas James Chance, pas une seconde, mais ça c'est encore autre chose. Mais c'est... Vous avez eu plein de références, alors on les entend toutes, ce qui est quand même extrêmement gênant, mais du coup moi j'entends pas de... J'entends de la musique, j'allais dire j'entends pas de musique, ce serait vraiment pas très gentil. J'entends quand même pas grand chose, hein. Ça produit pas d'effet.
Oui, ah,
vous allez me faire,
oui.
Vous voyez,
c'est un mode de vie.
Le concept, d'accord,
voilà, oui, d'accord. Ouais, mais... l'éthique,
oui,
l'empathie.
Ben, on peut l'appeler comme ça, c'est pas pour autant que ça marche.
Du grand cercle naturel. Faire partie humblement du grand cercle naturel.
Écoutez, ils ont qu'à appeler Björk et puis ils voient ça ensemble.
Vous savez quoi, je pense que vous êtes resté. Arnaud, vous êtes resté à la surface, en fait, puisque vous parliez de jungle.
Ah ben, j'aurais aimé plonger.
Et ben, en fait, il faut plonger.
Non,
il y a un petit indice.
C'est pas,
dans les
il faut, du... c'est, il faut être, il faut avoir le sentiment.
Il faut se mouiller peut-être. Mais
ah bon, alors
y a
là,
un petit... non, mais pourquoi je vous emmène vers cette métaphore-là? Parce que il y a un petit indice dans les notes, deux des morceaux.
Mais non, mais je m'en fiche des notes. Moi, j'écoute des disques en fait, si vous voulez.
Mais si, parce que ça vous donne un petit indice d'écoute.
Non, s'il faut lire toutes les notes pour ressentir quelque chose.
Trois lignes. Alors là, franchement, vous n'allez pas vous faire mal.
Non, mais vraiment, j'aime bien être ne rien avoir comme élément extérieur pour découvrir quoi que ce soit, un film, un livre, un disque. S'il faut se référer aux notes de la pochette, même si elle a trois lignes, c'est un problème.
Moi, je crois que...
Vous ne voulez pas l'indice, alors?
Ben, si vous voulez, hein, mais ça ne va pas changer ma perception. Disons, ce serait grave sur mon compte.
Non, peut-être pas.
Allez,
mais alors, moi, ça, en tout cas, ça a accompagné mon écoute. Je voyais que deux des morceaux, Hippocampe et Acera, étaient dédiés à Jean Painlevé, le réalisateur, biologiste scientifique que les surréalistes adoraient, qui a filmé beaucoup les animaux.
Ils ont accompagné, la diffusion de films.
Il y a quelque chose des fonds marins, alors, je pense.
Oui, mais moi je crois au contraire que le précédent disque Slow Future menait quelque chose à son terme, c'est-à-dire cette idée de transe, de morceaux longs, de morceaux pour des spectacles, et que là il y a une tentative de passer à autre chose qui n'est peut-être pas complètement aboutie du fait de ces conditions-là, puisqu'ils ont enregistré très rapidement, mais je perçois qu'ils tentent d'aller vers quelque chose d'un peu plus hédoniste, je dirais, d'un peu plus dans de la disco, puisque certains riffs qu'on entend, certaines sonorités ont tendance à venir de là aussi, c'est-à-dire on sent qu'ils ont écouté des choses un peu plus dansantes, mais moins dans la techno et davantage dans cette idée de juste encore une fois des années 70, mais de la disco cosmique, je dirais. Donc c'est à mon sens, et pour moi c'est vraiment un disque de transition pour ce groupe qui reste
mais
un groupe important,
hein.
Et le morceau qu'on a écouté, c'est moi je me trouve que c'est un très joli morceau. Effectivement, il mériterait d'être sans doute encore plus long, mais limites étaient là, c'est-à-dire je pense que c'est une étape à franchir et on attend plutôt la suite.
Peut-être. Alors, je vous rejoins là-dessus parce que Zombie en fait des disques que j'ai aimés et appréciés. Je trouve que celui-là est un peu court, mais c'est peut-être le disque de la transition. Un petit commentaire. Boris Pinault.
Oui, la trop sur Twitter parle de sous-oxygène en référence à l'album de Jean-Michel Jarre.
C'est pas possible ça.
Ah ben voilà ce qu'entendent les auditeurs en tout cas. Zombie, Levity, sorti chez Versatile Records. Date de concert, où est-ce que je les ai notées? Je ne sais pas. Vous les avez les dates de concert?
Non.
Écoutez, je ne sais pas. On va les mettre sur le site. Ah si, ça y est, en concert mercredi 31 janvier à Rennes. 23 mars à Ris-Orangis, 24 avril à Angers.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute, musique, c'est un label, La Souterraine, dont nous avons déjà parlé à l'occasion pour une de ces compilations Made in France, mettant en lumière, après, c'est réduit de l'underground pop français, on va dire ça comme ça. Alors, on avait le choix, Alligator, Chien Noir, Biche, Canary, Le Roi des Loups, Mille Colombes, c'est chaton. Parce que ce sont des noms de groupes qui font partie de cette compilation. Pourquoi autant d'animaux ? C'est un mystère. En tout cas, on va écouter Poésie du groupe Chaton.
Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite, je continue d'écrire des poésies. Le téléphone est éteint, le téléphone est éteint, le téléphone est éteint. Je ne répondrai jamais plus de rien, je ne me sens pas très bien. Depuis la fin des années 80, pourtant la vie est facile. Il suffit de baiser les gens droit dans les yeux, mais j'ai le sommeil fragile. De faire simplement bien quand je pourrais faire mieux. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. J'ai pas le refrain qui en dit long, seulement quelques mots brisés dans la coche. Je fais pas le malin sous les néons, quand je lui mets ma folie dans la coche. Si l'alcool ferait couper aux larmes, c'est que ça va pas vraiment faire. Parfois j'ai besoin d'un second craft, comme simplement respirer devient un effort. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris, Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. Oh, ça va pas du tout. J'ai plus jamais le goût. Oh, ça va pas du tout. J'irai pas jusqu'au bout. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris, Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quelques années en Erasmus, la soute est jupe lycéenne. Je ne demandais pas vraiment plus qu'un dernier volcan bouillant dans les veines. Je rêvais de remplir des salles, pas de remplir des verres dans mon salon, comme un con devant l'intégrale, d'une série la main dans le pantalon. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite, je continue d'écrire des poésies. Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. Je pourrais, mais pourtant, je fais plus jamais l'effort. Je n'aime plus trop les gens. Je m'ennuie comme un rat mort dans mon appartement. Je fais plus jamais l'effort. Je sais plus depuis quand j'ai pas mis le nez dehors. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. Ça va déjà mieux, ça va vite. Je continue d'écrire des poésies. Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. Et ça va déjà mieux, ça va vite. Je continue d'écrire des poésies. Des poésies.
Alors, on va laisser Chaton continuer à écrire des poésies, donner la parole à Mathieu Conquet. Je ne vous interrogerai pas sur ces noms d'animaux. Hein,
merci.
Tous ces groupes. Ça aurait pu être Chaton-Chaton en même temps, donc on a échappé à ça déjà. Mathieu. Moi, c'est pour parler de la souterraine aussi. Il y a Chaton qu'on vient d'écouter.
Moi, j'aime beaucoup le titre qu'on a choisi.
Beaucoup, beaucoup, hein, vous pouvez le dire. Hein.
Beaucoup, beaucoup. Je l'ai beaucoup écouté et rejoué. Ouais. Non, mais il y a quelque chose de très réussi dans ce reggae autotune qui dit je ne me sens plus très bien depuis le début des années 80, ce qui correspond sans doute à la date de naissance du chanteur. Il y a, en tout cas, dans cette anthologie, moi, je m'arrête sur le titre Ouf, hein, qui est ouf comme fou,
fou,
mais aussi comme soulagement, et peut-être le soulagement, c'est de s'apercevoir que le travail de la souterraine, qui est remarqué depuis quelques années, vous avez eu l'occasion d'en parler ici.
À d'autres heures de cette, cette belle maison.
Souvent soutenue, mérite vraiment d'être. Cette anthologie, je trouve, c'est une bonne porte d'entrée si vous ne savez pas ce que c'est que la nébuleuse souterraine. Il y a 22 morceaux recherchés et collectés par Laurent Bajon et Benjamin Casquera. Donc c'est eux deux, la souterraine. On pourrait qualifier ça d'entreprise d'archivage de l'underground de France. Pour moi, en fait, c'est un peu la plus grande des très petites entreprises de la musique en France. Il y a un côté miniature géante qui rassemble en concert, en compilation, des initiatives personnelles de gens qui font de la musique, mais parfois dans leur coin, dans leur studio, mais qui sont auto-édités, qui ne sont pas dans d'autres maisons de disques. Ce qui ne veut pas dire que la souterraine n'a pas fait connaître ces derniers temps des artistes qui vont finir par devenir, par s'adresser à un plus grand public, par intégrer des maisons de disques. Oui, non, mais c'est le cas de Chaton, par exemple, qui va sortir un album chez Arista. C'est la même chose pour Julien Barbagallo, qui est un des musiciens d'Aquaserge, qui lui aussi signait chez Sony. Voilà, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que donc le point commun de ces gens qui proposent leurs morceaux, qui sont donc sélectionnés par la souterraine. La souterraine, c'est pas un label, hein, c'est-à-dire qu'ils n'éditent pas les musiques, ils ne sortent pas les disques, ils proposent des compilations, des mixtapes, et ensuite, parfois, c'est édité chez Objet Disque, parfois, ça ne l'est pas. Mais l'idée, c'est de faire entendre d'autres formes d'expression avec un seul point commun référent, qui est la langue, puisque tout est toujours chanté en français. Il y a quelques musiciens québécois, bretons, même étrangers, mais c'est presque toujours à 100% en français. Et moi, je trouve que cette compilation, c'est une très bonne façon de comprendre ce qu'essaye de proposer la souterraine, c'est-à-dire que la chanson française, dans ce qu'elle peut avoir de pesant, peut-être qu'on peut y échapper. En tout cas,
vous avez des noms pour ça ou pas, pour le côté pesant de la chanson française?
Non, mais sans donner de nom, mais une sorte de dépendance à la littérature, peut-être. Mais alors que, par exemple, si on parle de dépendance à la littérature, ici, il y a Ali Danel. C'est un autre très bon morceau. C'est le deuxième de la compilation. C'est un jeune Havrais. Il a 23 ans et il reprend un poème de Paul Éluard, un peu à la façon de Hareski Belkacem et Brigitte Fontaine, avec juste une basse. Et puis il reprend donc ce poème, Bonjour tristesse, adieu tristesse, tu n'es pas tout à fait la misère, car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un sourire. Voilà, c'est assez beau de voir mis en valeur des vers d'autrefois qu'on pourrait juger. Je trouve qu'il y a une façon très légère de s'emparer de la littérature et qui montre que la chanson française ou l'expression française ne dépend pas forcément de la littérature.
Sauf heureusement.
Comme démonstration.
Oui, complètement.
Oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir que tous ces artistes puissent dans la littérature et la poésie, on va dire moderne, donc du 19e et du 20e, notamment Éluard, mais on peut penser même à des poètes comme Aragon, comme Desnos aussi, dont on sent quelques échos ici et là dans les textes. Tout en restant très contemporain dans les thématiques, c'est-à-dire que tous évoquent quand même le mal-être qui les concerne. Donc on va dire dans une génération, on va de 20 à 40. Donc au bord de la faillite, je continue d'écrire de poésie, vient de nous chanter Chaton. Je me sens pas très bien depuis la fin des années 80. Ici, une autre chanson, on entend Tu broies du noir ce soir. Une autre, chez Hello Kurt, on entend Les temps sont durs quand tout s'écroule sans un murmure. Mais heureusement, la lumière est au bout du tunnel. Sarah Maison, elle, chante désormais La joie est mon allié. Voilà, c'est une espèce de... Ils traduisent cette espèce de mélancolie innée qu'on traîne tous un peu et qu'ils arrivent, on va dire, à transcender, c'est un grand terme, mais en tout cas à détourner. Ils se dérobent à cette mélancolie via une musique dont les sons sont empruntés aux grandes icônes. Donc on entend du Gainsbourg beaucoup, on entend du Bolnareff aussi, du Christophe, du Dao, des années 60, 70, 80.
toujours, hein, c'est toujours ces trois décennies très fortes, mais ça reste effectivement très contemporain et pas uniquement grâce à l'autotune. Donc ça fait ce best-of, hein, on peut considérer cette compilation comme un best-of. Un disque extrêmement agréable où on découvre vraiment des jolies plumes, des jolies voix. Ils se sont targués de dire qu'il y avait beaucoup de groupes amateurs. Bon, c'est pas tout à fait le cas, et heureusement d'ailleurs, même si on n'a rien contre les musiciens amateurs. Et La Souterraine a un joli mot, elle dit qu'elle puise son sens dans la poésie et le marché. Et je crois que c'est ça, c'est autant il y a des textes, des chansons très poétiques, très abouties, très travaillées. Je pense à celle de justement Ali Danel, que je trouve très belle, à Chien Noir, à La Recette, à Guillaume Stanquet, Kevitz, Samy Colombe, et puis d'autres un peu plus anecdotiques qui s'amusent aussi parfois avec le thème des fabliaux et des laits médiévaux, mais qui restent très, très agréables.
Joseph Ghost, sur cette compilation La Souterraine.
Alors, moi je trouve que c'est un vrai chef-d'œuvre. J'étais totalement épaté, j'étais passé à côté, hein. Je l'ai écouté pour cette émission, et je suis vraiment tombé vraiment à la renverse. J'ai rarement écouté quelque chose de, enfin en tout cas ces dernières années, et en chanson française quelque chose, et même en pop en général, quelque chose d'aussi fort et bouleversant. Et je le dis vraiment d'abord en insistant sur le disque, la compilation, la séquence et la façon dont ça a été construit. On disait tout à l'heure que La Souterraine ne se réclame pas comme un label, mais si ça c'est pas un label, je ne sais pas ce que c'est qu'un label. C'est-à-dire qu'il y a une vraie démarche d'auteur, une vraie écriture, et tous les morceaux ont quelque chose qui fait écho les uns aux autres. Il y a d'un bout à l'autre de la compilation, il y a de la mélancolie, il y a des tempos qui se font écho. Il y a évidemment, on parlait d'influence, mais moi les influences je les sens à peine. C'est-à-dire qu'on sent qu'elles ont été digérées, qu'on n'est pas dans la copie. Parfois il y a des références, mais
il y a des auteurs, vraiment,
ce sont de vrais auteurs, ce sont de vrais auteurs. Alors à un moment je me suis posé la question, je me dis est-ce que les morceaux tiennent tout seuls? J'avais l'impression que non, mais en fait oui, c'est-à-dire que je suis allé rechercher des morceaux, il y en a certains que j'ai écoutés en boucle, en me disant qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que c'est que ça, et surtout j'ai eu l'impression, en écoutant ce disque vraiment plusieurs fois, que j'avais une coupe transversale dans la France d'aujourd'hui, même un peu au-delà, puisqu'il y a des groupes qui sont canadiens, et dans cette idée de la langue française, de la francophonie, etc., et aussi dans les thématiques qui traversent l'esprit. Ils parlent beaucoup d'amour, ça parle beaucoup de faire l'amour, il y a quelque chose vraiment de très physique, ça parle beaucoup d'épuisement, ça parle beaucoup de corps, ça parle beaucoup d'angoisse et d'écroulement. Et ça parle aussi de poésie, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement de la poésie, mais ça en parle. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est un disque vraiment, vraiment remarquable.
Bon, bah après un éloge pareil, on conclut en recommandant l'achat, l'écoute de Ouf, l'anthologie Souterraine 2015-2017. La Souterraine, bien sûr. Nous concluons avec le jeu de la dispute. D'abord un rappel du jeu d'hier au soir, et c'est Grégoire Di Fior qui s'y colle et qui va nous donner aussi la réponse du coup.
Quel ordre monastique n'acceptait à ses débuts que les vitraux sans croix ni couleur? Et la réponse était l'ordre cistercien.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour Gala de Jérôme Bell, pour des places pour samedi soir 23 décembre, enfin soir, fin d'après-midi 18h30, c'est à la MC 93 à Bobigny. Quelle est la question?
Quel est le titre de la pièce du chorégraphe pour deux danseurs et 11 objets?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur internet franceculture.fr à la page de la dispute, c'est sur laquelle vous pouvez réécouter nos émissions. Et bien sûr, en passant, vous vous abonnez au podcast de la dispute. Demain, rendez-vous à 19h pour une dispute art plastique et livre consacré aux arts plastiques. Nous serons avec Anaël Pijat, Florian Guetté, Stéphane Coréard, livre sur l'art, donc un Pierre Soulages par Robert Flack et Ernst Ulrich Obrist. Une histoire des espaces alternatifs à New York, le Soho South Bronx de 69 à 85, un livre de Pauline Chevalier. Et puis enfin, catalogue William Kentridge, Smoke, Ashes, Fable. Tout ça, c'est pour demain.